merci d'être venu par ce jour pluvieux et froid pour assister aujourd'hui donc à l'ENSIB à la présentation du deuxième numéro des cahiers de médiologie, qu'est-ce qu'une route. Nous avons souhaité pouvoir à l'ENSIB éprouver ce concept et cette direction de recherche de la médiologie dont beaucoup d'entre vous ont pu prendre connaissance par les textes de Régis Debray et par le premier numéro des cahiers de médiologie dont je sais qu'il est fort lu dans cette bibliothèque, la bibliothèque de cette école. Nous allons procéder de la manière suivante. Moi, je vais uniquement jouer le rôle de celui qui, si c'est nécessaire, passe et distribue la parole. Donc, Régis Debray présentera, dans une intervention liminaire, le dessin, en somme, de ces cahiers. Monsieur François Dagonier présentera, qui est responsable de ce numéro, La Route, nous dira pourquoi ce choix, qui a pu surprendre dans une revue consacrée à la médiologie. Et puis nous avons demandé à deux premiers lecteurs, en somme, de ce numéro d'être avec nous. Donc c'est un numéro dont je tiens qu'il est en vente depuis quelques jours dans les librairies de Lyon, à un prix fort modique. Donc nous avons demandé à deux premiers lecteurs d'être avec nous. D'une part, Patrick Bazin, donc vous connaissez bien, le directeur de la bibliothèque de Lyon, qui réagira d'abord en tant que bibliothécaire, homme praticien des médias, mais enfin dont je voudrais quand même dire aussi, vous le savez, qu'il est également philosophe. Et puis Jean-François Tétu, professeur à l'Université de Lyon 2, très lié à cette école, ne serait-ce que par la direction du DEA en sciences de l'information, qui aura une lecture lui plus orientée du côté de la communication, puisque c'est votre domaine de prédilection. Donc, M. Régis Debray, si vous voulez bien nous présenter d'abord le dessin général de ces cahiers de médiologie.
Oui, évidemment, on est un peu embarrassé de présenter une logie de plus, puisqu'il y a pléthore. Et chacun sait qu'un suffixe ne suffit pas à faire un concept et qu'il ne suffit pas d'inventer un mot pour inventer une science. Je ne vais donc pas revenir sur les justifications possibles de cette entreprise au plan épistémologique. Ce serait une discussion proprement philosophique. Disons, pour nous résumer très vite, que la médiologie voudrait se poser la question suivante: comment, par quelles procédures et avec quels effets l'humanité se transmet-elle? C'est bien symbolique, et les élabore au cours de cette transmission même. Donc la médiologie est l'étude, si vous voulez, des faits de transmission et de transport. Alors l'effet de transmission, c'est en fait, je crois, la culture elle-même. Au fond, c'est un essai d'anthropologie culturelle par le bas, si j'ose dire, c'est-à-dire par les matérialités de la culture, puisqu'il s'agit en quelque sorte de réfléchir aux incidences du champ culturel et du champ technique pour envisager une interdiscipline ou une antidiscipline, ou en tout cas quelque chose qui relèverait de ce que Caillois appelait les sciences diagonales, une discipline donc qui traiterait des fonctions sociales supérieures, expression classique en sociologie, c'est-à-dire art, religion, idéologie, politique, des fonctions sociales supérieures dans leur rapport avec les structures de transmission. Alors, je parle de transmission et pas de communication pour un certain nombre de raisons qui seraient un peu longues d'expliquer ici. Disons que la transmission a une connotation matérielle, diachronique, processuelle, qu'on n'a peut-être pas le terme de communication. En tout cas, dans la transmission, nous incluons les véhicules matériels de la transmission et donc les moyens de transport et donc les supports du transport et donc les substrats et donc la route, médium inconnu et négligé. Donc c'est vrai que lorsqu'on réfléchi à la constitution, par exemple, des grandes formations symboliques qui structurent notre civilisation, et pour le christianisme primitif, cela a été fait, et cela se poursuit. On se demande, le problème est les vecteurs de diffusion. Alors ces vecteurs de diffusion sont à la fois matériels et organisationnels. Disons qu'il y a une matière organisée, c'est-à-dire des traces, des supports, des codex, des textes, des papyrus, etc. Et puis il y a une organisation matérialisée qui s'appelle l'institution ecclésiale. Et donc la combinaison de ces deux choses, disons la combinaison des éléments matériels et des éléments politiques de la transmission, c'est un peu l'idée médiologique. Alors, j'ai parlé de la constitution du fait chrétien. Il est évident que le problème de transmission est capital, donc le problème du déplacement, par où, comment. Donc, la bonne nouvelle, Euangelos, l'évangile, comment ça va, comment il s'est répandu, comment il a été convoyé, le convoiement de la foi, le déplacement de la foi, ça passait par des voies terrestres et navigables. Notre ami Jean-François Tétu s'étonnait qu'il n'y ait pas plus d'eau dans la route, et c'est vrai que les voies navigables n'ont peut-être pas été suffisamment considérées ici dans ce numéro, mais elles ont joué un rôle tout à fait important. Donc voilà, on s'occupe des infrastructures matérielles du monde symbolique, lesquelles ne se voient pas beaucoup, ce qui suppose donc aussi une conversion du véhicule au vecteur, si j'ose dire, c'est-à-dire, par exemple aujourd'hui, puisqu'on parle de la route, il est insolite de parler de la route quand tout le monde parle de la vitesse. Par exemple, chacun sait que la vitesse est une grande vedette de la pensée contemporaine. Mais la vitesse sur quoi? Le moteur sur quoi? Le moteur sur quelle surface? Sur quel espace? Donc, je vais céder la parole à François Dagoniet, car il faut dire que je ne suis qu'un disciple de François Dagoniet, que la médiologie est en quelque sorte, j'allais dire son enfant, en tout cas son un petit-neveu dans la nombreuse famille que François Dagoniet a essaimé intellectuellement autour de lui, car je lui suis redevable d'un certain nombre de concepts et surtout d'un mode d'attaque du phénomène culturel par, disons, le matériel, le matériau, la matériologie, le matérialisme dont il est le pionnier. Et donc c'est lui qui a proposé au cahier de médiologie de traiter de la route, et tout de suite de la route comme espace à construire, comme espace matériel à construire, comme tracé, donc comme chantier. Il y a aussi la route comme espace de circulation, c'est le canal, c'est le vecteur, et puis il y a la route comme espace d'imagination, c'est la symbolique et l'imaginaire de la route. Et l'originalité du travail de François Dagoniet était d'articuler les unes sur les autres, de prendre ensemble toutes ces trois dimensions matérielles, opérationnelles et symboliques. Voilà donc ce que je dirais en introduction, et je voudrais donc tout de suite céder la parole à mon maître, qui est en plus l'organisateur et l'initiateur de ce numéro 2 des cahiers de médiologie, qui donc sont une revue qui, comme vous voyez, combine beaucoup la photo et le texte, divisé à chaque fois en trois parties, un dossier, puis ce qu'on appelle un kiosque, qui est un point de rencontre entre les lecteurs et nous, et l'occasion un peu de déborder la thématique du numéro pour envisager des phénomènes d'actualité. Et enfin, une anthologie des extraits des grands auteurs qui ont quelque chose à dire de significatif, sur, en l'occurrence sur la route, hier sur le spectacle. Revue semestrielle donc, agrémentée pour son numéro 2 d'un cahier photo, puisque s'inaugure dans quelques jours l'exposition de photos « Qu'est-ce que la route ?» à la Maison européenne de la photographie, où se dérouleront aussi un certain nombre de tables rondes autour du thème des transports qui est devenu d'actualité puisque les routiers nous ont rendu le service de donner à la route toute sa dimension angoissante et perplexe qui peut permettre peut-être quelques interrogations médiologiques utiles. Enfin, la revue est donc publiée par Gallimard et nous pouvons la mettre à un prix à la portée des étudiants par le fait que nous y incluons un peu de publicité, notamment en l'occurrence, nous avons eu le soutien de quelques constructeurs de routes dont nous ne sommes nullement les porte-parole, mais qui nous ont permis de mettre ce numéro qui devrait coûter à peu près 180 francs ou 200 francs pour son prix de revient à 60 francs. Excusez-moi la triviale matérialité du propos, mais en médiologie, nous sommes tout à fait proche du détail trivial. Voilà.
Il m'a semblé que la route appartenait effectivement aux médiologues, c'est-à-dire relevait de la médiologie, dont M. Régis Debray a fait d'ailleurs le centre de son œuvre. Et contrairement à ce qu'il a dit, c'est moi le disciple, bien entendu, et c'est lui le maître. Vous l'avez bien compris. L'ingénieur civil a sûrement construit la route. L'historien l'a décrit, le géographe la situe, mais incontestablement, j'essaierai de le montrer, elle appartient à la médiologie, qui doit en examiner effectivement le statut, les rôles, le pouvoir, pour rappeler les mots qui viennent d'être dits, la symbolicité, parce qu'effectivement, c'est l'évidence même, elle sert de pont entre des centres séparés qu'elle parvient à relier. Elle est déjà, évidemment, par excellence, médiatrice. Mais il me semble que, en l'occurrence, la médiation va si loin que, de moyen qu'elle était, la route peut devenir la fin. Je vais m'expliquer sur ce terme. Je veux dire par là que, tout compte fait, la route ne joint pas des villages séparés, elle va jusqu'à les créer. D'ailleurs, on se demande bien ce que la route ne crée pas. On a pu croire qu'un village se formait d'abord et que la route allait le désenclaver, l'ouvrir. Une histoire structurale, cependant, très rapidement montre que, à l'origine, la bourgade, qui n'est pas encore vraiment un village, s'est souvent installée sur un promontoire. Et c'est là qu'elle a commencé à effectivement cristalliser la bourgade. Et je le répète, Platon le disait dans les lois, la vraie bourgade, elle commence toujours par s'édifier sur une hauteur, à la fois pour dominer et pour se défendre. Mais comme la route passe au bas de cette sorte de falaise, là encore par définition, elle va totalement aspirer ce qui va devenir un village. Et peu à peu, effectivement, au cours de l'histoire, on va voir le sommet, là où était la bourgade primitive, s'éteindre. En revanche, le long du fleuve, la ville va pouvoir s'étirer et grandir sans retenue, d'où la fonction opérationnelle de la route. La liaison l'emporte sur l'être, et elle le conditionne, elle le constitue. La médiologie ne peut que se réjouir de ce que les rapports, plus que les supports, induisent le développement. Et c'est pourquoi je dirais avec le romancier que vous connaissez, au tout commencement était la route. C'est elle, le vrai facteur du développement, et je l'ai dit, de la morphogenèse. À ce sujet, parce que je vais raconter des histoires pour pas trop vous ennuyer ou vous fatiguer plutôt, j'étais sensible à la modeste observation suivante. Dans une banlieue de la région parisienne, on a créé une sorte de référendum afin de savoir si les habitants, eh bien, qui étaient un peu dispersés dans une banlieue, étaient favorables au prolongement d'une ligne de bus, d'un service qui relierait mieux les quartiers. Le oui l'a très largement emporté. Mais il a été remarqué par la suite, grâce à des enquêtes dont je vous fais grâce, mais ce que je vous dis n'est pas une fable, il a été remarqué que votaient oui des citoyens qui n'emprunteraient pas ces transports. et qui savaient qu'ils ne pourraient pas les emprunter, étant donné leur précarité ou leur situation économique défaillante. Même s'ils ne l'emploient pas, évidemment, ce n'est pas tout à fait la route, mais c'est le mouvement. Eh bien, cette artère, elle apporte tellement la vie, l'animation, l'échange, qu'à défaut de l'échange réel, en l'occurrence, elle a été voulue parce qu'elle permettait pour eux qui votaient oui l'échange possible, l'échange virtuel, une potentialité communautaire. Et s'il le fallait, je pourrais longuement montrer que l'homme, lui aussi, il vit de la route. L'homme est un sédiment de la route. Il est constitué par de multiples échanges. Biologiquement aussi, son corps est tissé. Elle est tissée par de nombreuses rencontres que les chemins ont permises, mais je laisserai ça de côté. J'ai essayé de dire très rapidement d'un mot pourquoi la route relevait effectivement de la médiologie et pouvait l'animer. Une autre raison m'a paru pressante aussi, parce que la route va pouvoir, je crois, imposer aux mentalités une configuration spatiale inhabituelle. La morphologie générale, en effet, avant, je ne peux pas dire avant la route, puisque la route pour moi est au commencement, mais la morphologie a généralement trop privilégié les formes, disons, fermées. Notamment le cercle, par exemple, qu'il a emporté, d'ailleurs, sur le carré, sur le rectangle, sur le triangle. La ville, Urbs, elle s'enferme à l'intérieur d'une enceinte circulaire. L'édifice public, évidemment, en généralisant, d'inspiration gréco-romaine, comme l'église d'ailleurs, est souvent surmontée d'une coupole. Dites la circonférence, la sphère, le cercle, sont des figures prégnantes dans la morphologie générale. Et la circonférence d'ailleurs, comme le remarquait aussi bien Aristote que Plotin, se caractérise par l'absence d'un commencement et d'une fin. Image mobile de l'éternité, elle aussi. Et de plus, elle délimite un territoire de défense et de retranchement. Mais le chemin, donc la route, va briser ce paradigme trop présent, hypercentré. Car la route, qu'elle soit rectiligne ou sinueuse, peu importe, elle s'enfonce dans l'horizon. On sait très bien d'où elle part, mais on ne sait pas où elle s'arrête. Évidemment parce qu'elle rejoint de manière confuse, un ensemble réticulaire. Tellement tous les chemins se branchent les uns sur les autres, même s'ils mènent tous à Rome. En réalité, je le répète, la route, elle finit par se perdre dans un multiple lacis de chemins, etc. Comme j'ai eu le malheur de le dire dans le cahier médiologie dont Régis Debray vous parlait, un philosophe tenait l'arbre pour ce qui avait commandé à la pensée. Et comme ce qui lui avait imposé son schème centralisateur. Tout dans la culture, disait-il, et il le déplorait d'ailleurs, était arbre. La science, la vie, la religion, la connaissance, l'art. Et il en résultait, selon lui d'ailleurs, aussi un ressassement, une subordination, un emprisonnement. Il pensait que l'arbre était la figure centrale de la culture et en même temps qu'il était son péril et son danger. Eh bien, précisément, que ce philosophe ait raison, n'en discutons pas, mais la route, elle va nous sauver de cette imprégnation par elle seule. Et c'est pourquoi elle peut et doit convenir aux médiologues soucieux des affranchissements, des communications, des diffusions, des transports, parce que si la médiologie est fondamentalement matérielle dans ses assises, elle tient aussi à repérer les conséquences et les effets psychologiques ou anthropologiques de ces assises matérielles. D'ailleurs, tout ça pour vous dire combien la route l'emporte, nous allons dans notre définition médiologisante de la route jusqu'à la confondre avec le livre. Et je le dis, non pas parce qu'on est ici à l'ENSIB, mais parce que je le pense. En quoi la route est-elle un livre? D'abord, les métaphores peuvent y pousser. On parlera tout à l'heure des autoroutes de l'information. Et dans le texte que contient le numéro de Descahiers, effectivement, plusieurs, et dont moi, Nous avons été arrêtés par les belles définitions de la route que donne Charles Péguy dans son beau livre Notre conjointe. Notre conjointe sur la philosophie de Descartes et sur la philosophie de Bergson. Il caractérise la route, lui Péguy, par l'attirail transcriptif et désignatif qui toujours l'accompagne. Les bornes, les jalons, les plaques, les poteaux indicateurs. Il pense que c'est ça, l'essence de la route. Je le cite. Une route est un appareil où il faut, pour la beauté, pour l'ordre, pour l'appareil, qu'il y ait des poteaux indicateurs et des bornes kilométriques. Ça en fait partie. Intégrale, intégrante. C'est l'être même de la route. Une route qui n'aurait pas des poteaux indicateurs et des bornes kilométriques ne serait pas articulée, elle ne serait pas cadrée, elle ne serait pas une route. Oui, je n'exagère pas. Notre conjointe, page 311. Péguy revient d'ailleurs par vague, ce n'est pas un moment, c'est pas, je répète, un lancement sur lequel il ne revient pas, il y insiste. Je le cite encore. Un homme qui se représenterait une route sans poteau indicateur, sans bande kilométrique, serait un homme qui n'aurait aucune idée de rien, qui ne serait ni peintre, ni poète, ni philosophe, ni métaphysicien, moins que rien. Page 312, moins que rien. Pourquoi ces affirmations apparemment outrées? Car voici que la route, quand elle est signalisée, elle rend l'homme artiste et métaphysicien. Il est assez facile de répondre d'un mot à l'interrogation péguiste. Bien que ce soit une question un peu ici parasitaire, la route pour lui est celle du pèlerinage qui nous conduit ailleurs et nous sauve de toute limitation. Ce à quoi aspire la médiologie qui s'intéresse précisément aux vecteurs de diffusion. Elle conduit ailleurs. D'ailleurs, dans la poétique de Péguy, les carrefours deviennent des crucifix, des croix, et toutes les routes conduisent à la Jérusalem céleste. Et Péguy ajoute d'ailleurs, je répète dans sa sublime poétique, que les protestants, les juifs, ne connaissent pas le pèlerinage. Ceux de la paroisse, ceux du mouvement, ceux de la marche. Mais quittons cette forêt que vous jugerez sans doute poético-religieuse, il reste que la route, et je le répète, je le dis pas parce que je suis ici, elle est fondamentalement liée à l'écriture et au livre, et elle est un livre. Parce que si Péguy a insisté de manière un petit peu détournée et oblique, enfin il en est un, lui, qui ne s'est pas trompé, Jean-Jacques Rousseau. La preuve lui en serait donnée d'ailleurs, de nombreuses preuves qu'il a données, identifiant carrément, pas métaphoriquement, la route et le livre. Oui, la preuve lui en serait donnée par le fait que, au départ, les lignes d'un texte vont de gauche à droite, puis reviennent de droite à gauche. Survivance de l'agriculture ou de la charrue qui revient et retourne les sillons, nullement. C'est la route, parce qu'elle implique elle-même l'aller-retour, l'un et l'autre. Alors le texte communicationnel le plus primitif aurait repris le rythme de l'itinérant, du promeneur, du voyageur. Plus tard, il est vrai, note Jean-Jacques Rousseau, cette manière fut abolie. Et je le cite, dans sa lettre à Burnet, « La difficulté de lire et d'écrire dans les deux sens, les Grecs, leur fit abandonner tout à fait l'ancienne direction. Et ils écrivirent, comme nous faisons aujourd'hui, uniquement de gauche à droite, revenant toujours à la gauche, pour recommencer chaque ligne. Cette marche a un inconvénient, dans le saut que l'œil est forcé de faire de la fin de chaque ligne au commencement, de la suivante, et du bas de chaque page au haut de celle qui suit. Cet inconvénient que l'habitude nous rend insensible à la lecture se fait mieux sentir en lisant la musique. Rousseau le promeneur a regretté explicitement, ouvertement, que l'écriture n'ait pas continué à suivre la marche de nos pas, sur la route, celle de l'aller-retour. Ou encore, il a déploré que la discontinuité désormais déchire le ruban scriptural. Et j'ajoute que si quelqu'un a été un marcheur et a emprunté sans cesse les routes, ce fut lui, le nomade, le vagabond, l'errant. Et j'ai essayé par trois remarques, peut-être discutables, de vous justifier la présence de la route dans les cahiers de maquillologie, mais un philosophe, comme ceux qui sont ici sur cette estrade, comme nous aspirons tous à l'être, c'est celui qui, dans un sujet ou dans le monde, aperçoit des problèmes ou des tensions ou des transformations et qui voudrait méditer sur elles. Il est donc retenu par des interrogations. Je voudrais vous dire ce qui me perturbe un peu ou, comme on dit aujourd'hui, m'interroge sur et dans ou avec la route. Comme j'ai d'ailleurs essayé de le montrer dans ce cahier médiologie sur la route. Parce que de tous côtés, les routes se sont multipliées. Parce que, évidemment, le relationnel triomphe, même si le cahier a négligé les voies d'eau et la mer. Évidemment, on circule sur l'eau, dans les airs, comme sur les chemins artificiels, les chemins de fer, comme désormais sur les routes tout à fait nouvelles que sont les autoroutes, les routes de la vitesse. Mais d'ailleurs, vous aussi, avec les livres, vous connaissez le même remue-ménage. Le dictionnaire a un peu au livre ce que l'autoroute est au chemin. Avec cet hyper-livre, on va très vite au but aussi, et on est rapidement informé. Et évidemment, dans cette école, vous appréciez tout particulièrement les glossaires, les sommaires, les thésaurus, les index, etc., etc. Tous les livres des livres. D'ailleurs, sont-ce encore des livres ? Et j'imagine qu'Internet, Internet ou même l'écriture sur écran est au livre ce que l'avion est à notre pauvre chemin, et alors l'hypertexte aussi. Mais justement, je me pose la question suivante, et je me la suis posée, et je la pose aussi devant vous, est-ce que l'autoroute n'est pas la destruction de la route, une non-route, plutôt qu'une métaroute ? Tel est le problème que je me suis posé et que je voudrais, si vous le voulez bien, évoquer devant vous. En effet, celle-ci, l'autoroute, elle brutalise le paysage, elle le trouve, et surtout, elle tend à supprimer les distances, donc la médiation à laquelle le médiologue est attaché, puisqu'elle vise à instantanéiser le voyage. De plus, c'est banal, elle disjoint l'aller et le retour auquel le chemin, qui était l'essence du chemin. Bref, elle semble de tous côtés, à l'opposé de la route, tant à cause d'ailleurs de son péage, puisqu'elle relève d'une société privée, alors que la route appartenait au domaine public. Elle était l'œuvre de la communauté. Et puis ces exclusives, sur la route, tout le monde avait un droit, enfin le droit de circuler, d'aller, mais ici, les piétons n'ont pas la place sur leur autoroute, seulement les bolides, etc. Alors pourquoi, cependant, à mes yeux, cette autoroute mérite de demeurer dans la grande catégorie, la catégorie médiologique, donc poétique de la route? Et je reprends un peu ce que j'écris en le forçant et le rendant peut-être plus clair. En effet, ce qui caractérise fondamentalement la route, du moins je le crois, c'est qu'elle survit à son trajet aussi. Elle est certes un chemin toujours ouvert, mais principalement, le médiologue insiste sur les aspects matériels, elle relève d'un substrat stable et résistant. C'est le substrat qui fait la route. La médiologie, d'ailleurs, telle que mon jeune maître Régis Debré l'a définie, ne peut pas ignorer le poids de la matérialité, donc l'importance du support. De même, pas de livre sans papier, du moins je crois, pas de route sans son soubassement travaillé, sans une construction. Or, précisément, l'autoroute actuelle, elle bénéficie d'une sorte de revêtement impressionnante. Par exemple, la colle qu'on va déverser sur elle, le saviez-vous aujourd'hui ? Et le cahier de biologie va y insister, elle amortit les bruits. De même qu'elle va de plus en plus limiter les secousses, de telle manière qu'avec elle, on va s'orienter vers le glissement. Et plus de secousses et plus de bruit. D'autre part, l'industriel, qui ne cesse de travailler son substrat, a mis au point aujourd'hui un asphalte qui est adhérent, bien sûr, mais tel qu'il ne colle plus aux roues, par exemple, des camions qui vont passer sur lui. En somme, l'enduit asphaltique, bitumineux des routiers aujourd'hui, il est compact en dessous, mais le dessus demeure assez délié de telle manière qu'il puisse être facilement enlevé et qu'il, encore une fois, ne soit pas agrégé à tout ce qui passe sur lui. Dites une matière ambivalente, différente à la base de son sommet. Et d'ailleurs, on ne s'imagine pas le nombre d'opérations et de prouesses afin de réaliser cette surface qui convienne. Qui, sans être poreuse, permettent l'évacuation des eaux. Et qui ne soient même pas trop brillantes. Car il faut éviter l'éclat du reflet des phares, surtout quand il pleut, comme aujourd'hui. Eh bien, l'industrie routière travaille à la possibilité d'un tel tracé qui parvient à s'enfiler à travers toutes les difficultés que j'ai dites. Plus de bruit, plus de secousses, plus de reflets, plus d'adhérence, qui compromettrait d'ailleurs la lycéité du tracé. Dans ces conditions, et sans même en appeler à d'autres motifs, l'autoroute nous a donc semblé mériter le nom évidemment avantageux de métaroute, ne serait-ce que pour fêter l'hardiesse de ses trajets ainsi que l'ingéniosité de l'enrobement qui la recouvre. Dites, entre parenthèses, celui qui travaille sur le bitume n'est pas loin de celui qui s'intéresse aux pneumatiques. Et d'ailleurs, M. Debré a rendu visite à François Michelin qui l'a informé. Et savez-vous que pour fabriquer un pneu, aujourd'hui, officiellement, ouvertement, il faut prévoir 200 opérations distinctes. Tellement ce pneu actuel, qui va épouser la route, doit remplir, enfin satisfaire à des conditions difficiles. D'ailleurs, cette défense de l'autoroute, je voudrais la généraliser, parce que elle met en garde le médiologue contre une interprétation générale totalement pernicieuse et erronée. Quelle est donc cette interprétation que moi, pseudo-médiologue, je voudrais dénoncer ? Eh bien, certains médiologues sont un peu semblables à la colombe dont parlait Kant, qui s'imaginait, la pauvre colombe, qu'elle volerait mieux et plus vite en l'absence de l'air qui lui résiste, alors que précisément cet air favorise son déplacement et sa vitesse. En règle générale, nous privilégions la dématérialisation ou l'immatérialisation pour marcher, par exemple, vers le virtuel, entre autres. Mais c'est là, je le répète, une déviance. C'est oublier d'abord que le support est toujours la base de la médiation et au cœur de la médiologie. Mais lorsque on a rejeté ce qui est visible, il n'en demeure pas moins et indispensable, et toujours hyper matériel, d'en appeler encore un support. Mais naturellement, il a changé d'échelle et il devient imperceptible. On croit qu'on est dans l'immatériel, qu'on est entré dans l'irréel, alors qu'on puise plus que jamais dans les ressources de la miniaturisation. Autrement dit, l'infrastructure joue un poids capital et l'allègement des infrastructures ou des substrats ne signifie nullement leur disparition, mais favorise seulement et de manière indue des théorisations fantaisiste ou dadaïste. On croit à la virtualité ou à l'immatérialité. Ce qui définit donc la route, et l'autoroute est la coefficienté de cette définition, c'est que le sol a été empierré et que de ce fait, il rend possible des passages extrêmement rapides. Le sol a été modifié et travaillé, et le goudronnage vient d'accélérer ce processus circulatoire. C'est pourquoi donc l'autoroute, en dépit des justes critiques qui peuvent la frapper, mérite d'être considérée comme l'essence de la route, ce qui nous en montre véritablement la nature, et non pas le contraire de la route, et pas davantage son altération. Il en résulte aussi un sens nouveau du voyage, et d'ailleurs à ce sujet, j'ai été heureux de voir que les cahiers de médiologie avaient rapporté une situation étrange avec les autonautes de la cosmoroute. Voici ce qui est esquissé, je crois, dans le kiosque ou dans l'autologie. Des voyageurs sont résolus à aller de Paris à Marseille, puis de remonter aussitôt de Marseille à Paris. L'autoroute, ici, est devenue la fin, le but de leur expédition. Et naturellement, en cours de route, ils vont profiter de l'animation culturelle, des parkings qui s'égrènent le long de ce long ruban. Ah, pour moi, il s'agit d'un voyage à la puissance 2. Il ne s'agit pas de voyager pour aller quelque part, ou pour marcher, mais voyager pour voyager. On reste à l'intérieur même de l'instrument, dans le conditionnement, une sorte de non-changement dans le changement, l'extraordinaire couplage du stationnement dans le mouvement, les voyageurs. Alors évidemment, ils ont été obligés d'écrire à la direction des autoroutes, parce qu'on n'a pas le droit de rester pendant plus de 2 jours sur une autoroute. Ils ont demandé une dispense, puisque l'autoroute était à la fois, je le répète, le moyen et la fin de leur déambulation. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Mais le problème que j'examine, ceci est un côté un peu farfelu peut-être, quoi qu'il ait un sens. Et d'ailleurs, l'expérience tend à se multiplier. On connaît maintenant plusieurs familles qui effectivement consacrent leurs vacances à aller par exemple du nord à Marseille, puis remonter de Marseille au nord, sans quitter l'autoroute, après avoir obtenu la possibilité d'y demeurer. Non pas enfermés, alors ce qui les amuse le plus, d'après leur récit, c'est de voir les voitures qui défilent la nuit, etc. C'est la fête permanente. Ne quittez pas la route. Elle ne vous conduit nulle part, elle est elle-même la fin du voyage. Naturellement, le problème rebondit à examiner les autres modalités du déplacement. On parlera peu de l'eau, puisqu'elle est la grande absente, mais dans les airs, sur les rails. Avec le chemin de fer, est-ce que le transport n'a pas pris la place du véritable voyage? Un peu comme si la bande dessinée remplaçait le livre. Cependant, nous suivons en ce moment notre fil d'Ariel, ou du moins nous ne quittons pas notre critère, puisque le substrat, en l'occurrence le ballast, est indispensable à l'assiette de la voie ferrée. Alors le substrat n'a pas été sacrifié, loin de là, nous sommes toujours en présence d'une route. Même si cette route, encore une fois, est connotée d'aspects négatifs, les arrêts obligés, les horaires, etc. Il en va de même pour les bateaux et les avions. Moi, j'avais cru que pour eux, la route cessait d'exister, mais pas du tout. Ne commettons pas l'erreur que nous avons dénoncée tout à l'heure, qui consiste à voir de l'immatériel, là où il y a des couloirs désormais techniques, calculés, même sophistiqués. Même le navire doit estimer préalablement les courants, les tempêtes, la hauteur des vagues, les flux contraignants, pour pouvoir précisément aménager son trajet. Ne manquons pas, encore une fois, ne manquons pas l'existence des routes réelles, bien qu'invisibles, celles de l'océan comme celles du ciel, que aident à préciser des instruments variés, très précis, radioélectriques, radars, etc. Évidemment, ici, on commence à se dispenser de la matérialité un peu grossière et sensible, et bientôt cesseront les fibres, les câbles, au profit simplement des ondes hertziennes, des radars. Mais l'essentiel demeure. Finalement, que veut la route? Un petit peu l'abolition de l'espace et du temps. Et pour ce faire, elle repose elle-même sur le substrat, toujours là, car il est encore une fois sa condition même. Et alors, telle est la définition de la route, et j'espère vous persuader du fait qu'elle est au cœur de la médiologie. La médiologie, vraiment, elle a trouvé là son sanctuaire même. La route, quelle qu'elle soit, permet alors les déplacements et des marchandises et des hommes et des informations, des choses, des mots, des individus, au choix. À cet égard, je voudrais m'apesantir dans une digression que vous pardonnerez, mais que l'ANSIB, qui nous a si généreusement invités, l'ANSIB m'y invite indirectement, car elle est le lieu où l'on enseigne précisément la vitesse des informations et où s'intéresse tout spécialement à la circulation, non pas des marchandises, non pas des hommes, mais des messages. Alors, qu'il me soit donc permis ici un développement un peu parasitaire, que le prestigieux site où je me trouve suggère et ce à quoi il m'incite. Puisque nul ne l'ignore, l'ENSIB est une très grande école. On a longtemps cru, et c'est vrai d'ailleurs, que le livre avait tué la pierre, ou l'architecture, ou l'installation. C'est vrai. Mais il va falloir que nous nuancions un petit peu ce philosophème. C'est donc un problème idéologique que je voudrais ici examiner. Et en voici la preuve. Votre école, l'ENSIP, se situe sur les marges d'un immense campus universitaire, dont j'ai vu personnellement la lente élaboration à Lyon. On y a multiplié les laboratoires, les centres, les instruments. Savez-vous du moins qu'au début, ce fut un échec relatif? On ne vous l'a pas dit, mais moi je vous le dis. En effet, au départ, un petit peu dans l'improvisation, la rapidité, chaque enseignant avait indiqué, puisqu'on implantait en grand, avait indiqué les programmes qu'il entendait suivre, ainsi que les exigences matérielles que ces programmes induisaient. Et les planificateurs avaient suivi leurs projets et naturellement les avaient facilités. Mais pourquoi est-ce que ce fut un échec, la doigt, à côté de vous, dans certains domaines que je ne préciserai pas? C'est que n'avait pas été constituée antérieurement une banque de données qui aurait informé de tout ce qui dans le monde est alors recherché. C'est là un travail évidemment herculéen, car il n'y a pas précisément ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication. Les laboratoires privés cachent leur innovation. Les brevets les défendent. Les langues multiples les isolent. Les nomenclatures différentes les abritent. Comment arriver à saisir et à répandre l'information? L'insularité bloque la science. Alors, à Lyon, on a construit dans l'ignorance des réseaux informationnels. Et naturellement, certains se sont mis à rechercher ce qui ailleurs avait déjà été élaboré et trouvé. Parce que l'être, sans l'aura relationnelle, il marche à l'inertie, à la répétition, à l'asphyxie, à sa perte, et la doigt fut une perte à un moment donné. D'ailleurs, il est difficile dans le domaine, par exemple, de la minéralogie, de la chimie organique, il est difficile de communiquer, de faire se mouvoir. Une molécule complexe, par exemple, elle s'écrit dans un langage tridimensionnel, par définition. Elle est un volume, elle est dans l'espace, elle buissonne dans l'espace. Alors, premièrement, déjà, comment la transcrire sur une surface à deux dimensions, qui sera le seul langage, évidemment, communicationnel. Puis, deuxièmement, il faut non pas seulement l'écrire, mais encore, il faut alléger cette structure pour qu'elle puisse se déplacer. Parce que si elle n'a pas une certaine légèreté, vous ne pouvez pas communiquer, encore une fois, des masses trop arborescentes. Comment l'exprimer ou la surcondenser sans nuire à l'intelligence de sa structure ou de sa composition buissonnante? Car c'est un problème de transfert et de déplacement. C'est aussi la science, un problème de route. À ignorer ou à négliger la circulation des idées, des savoirs et des projets en construit dans le marginal. L'autoroute de l'information est le laboratoire des laboratoires. Sans celui-là, ceux-ci tournent à vide. Il est donc capital, d'une part, que la bibliothèque universitaire soit au centre du campus et que l'ENSIB elle-même soit intégrée à l'usine à idées qu'est le campus. Et d'ailleurs, cette école est, ou devrait, ou pourrait être, mais doit être, le cerveau et le cœur de tout la doigt, parce que c'est ici que tout se joue. La route, en effet, l'emporte sur le stationnement. Elle est le lieu de l'élaboration. Avant que le savoir puisse se renouveler, il faut qu'il puisse préalablement circuler, et s'il ne circule pas, il n'y a plus de savoir. La doigt, à un moment donné, en a éprouvé la triste conséquence. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il soit difficile de constituer des abstracts, d'immenses synopsis, car il faut non seulement tout archiver, mais aussi tout condenser. Oui, c'est difficile. Ne peut en effet être transmis, comme je viens de le dire, que le super allégé, l'extraordinairement miniaturisé. Et la question est épistémologique, justement, comment abréger au maximum sans rien perdre? Et évidemment, c'est là notre problème. Sans vouloir alourdir cette journée qui fête les cahiers de méthodologie, je voudrais revenir sur un dernier problème qui me retient un petit peu plus philosophique. L'ancien chemin, me semble-t-il, la route, permettait à l'habitant des lieux, évidemment, de sortir de son agglomération. C'est la même chose. De même, échanger la bibliothèque, elle est moins le lieu de la méditation et de l'oraison que celle de l'extension, qui un petit peu déplace et parfois annule la compréhension. Le chercheur est mis aujourd'hui en présence d'un afflux de données, c'est la submersion, c'est l'afflux. Tous les flux viennent à lui. La route moderne a supprimé les lieux. L'écran est en train d'effacer l'écrit. Le réseau a tué le chemin. Alors naît une nouvelle culture. Elle est favorable au saut, au déplacement, aux multiples registres, au passage, aux nomades. Et bien entendu, est condamnée à tout jamais la sédentarité. Alors, la question que moi, philosophe, que je me pose est la suivante. Est-ce que nous devons accompagner cette transformation, ou bien la freiner, ou l'entraver, ou la bénir, ou la saluer? Le philosophe doit-il être celui qui pense, dans le dialogue de l'âme, elle-même avec elle-même, ou celui qui s'emploie à totaliser le savoir, qui court sur tous les chemins à la recherche de l'information? Est-il l'homme des méditations philosophico-métaphysiques, ou bien l'encyclopédiste? La route ancienne, la route moderne, les deux s'opposent et elles nous conduisent à cette dernière interrogation. En somme, le voyage en chargé de nature. Et aujourd'hui, le déplacement va si vite que nous jouissons évidemment d'une quasi-ubiquité. Nous nous déplaçons d'ailleurs dans des enceintes fermées, des carlingues. Mais le problème pour moi est le suivant. L'ancienne route permettait l'existentialisme de la randonnée. La lenteur, l'entrée dans les paysages, la contemplation, le rousseauisme en somme. Les routes modernes, au contraire, elles conduisent vers le contraire, au bout du monde, vers l'exotisme, l'insolite, le spectacle, l'inconnu. Alors, faut-il valoriser la route ancienne du marcheur ou le déplacement du globe-trotteur? Qu'est-ce que le philosophe doit, encore une fois, accompagner, souligner, avantager? Doit-il être le lecteur d'un seul livre, de quelques phrases d'un livre sur lesquelles il revient inlassablement? Ou bien doit-il être l'érudit, le connaisseur, à qui rien n'échappe? Que doit valoriser le philosophe? Telle est la question sur les deux chemins au carrefour desquels je me trouve, car nous sommes à un carrefour. De quel côté aller? Est-ce la fin du livre en faveur de l'information ou non? Dites, pour moi c'est un problème. J'avoue ne pas le saisir vraiment et encore moins pouvoir le résoudre.
Merci beaucoup pour cette leçon.
Un peu longue, oui.
Je vais peut-être demander à Patrick Bazin, interpellé par les évocations précises que vous avez faites des bibliothèques, au moins, comment il réagit sur ce numéro.
J'adhère tout à fait, bien évidemment, à ce que François Dagonier a dit au début de son intervention sur le rapprochement entre livre et route. J'aurai l'occasion d'y revenir, je pense. Ceci dit, je ne peux m'empêcher, en entendant vos derniers propos, d'être finalement extrêmement étonné de constater de la part d'un matériologue comme vous, de quelqu'un qui devrait, je dirais, prendre les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se développent, et c'est le cas également de Régis Debray, qui fait profession de foi, de matérialisme, de terminer votre propos, et dans votre texte des cahiers médiologie, vous le faites, et Michel Serres également le fait, ce qui est extrêmement étonnant, de terminer au fond votre propos par l'appel à la singularité, à la subjectivité et à la confrontation personnelle, individuelle, quasi religieuse, à l'environnement et au monde en tant que tel. Michel Serres, qui écrit un texte qui fait pendant au texte de Régis Debray, votre texte ouvre les cahiers, le texte de Serres le termine, curieusement sur des registres différents, parce que le style est différent, le style de Serres étant, sa philosophie étant une philosophie plus aérienne, je dirais, moins matériologiste. Le texte de Serres, après avoir d'une façon brillantissime développé une théorie de la métaroute, des nouvelles routes immatérielles, en faisant appel en particulier à la théorie du chaos, termine en disant, finalement, ce qui compte, c'est pas la route, c'est ce qu'il y a après la route. Et il prend l'exemple, effectivement, du personnage qui se transporte dans une voiture ou que l'on transporte dans un carrosse, qui arrive au bout de la route, qui est obligé de descendre, qui continue à marcher avec des amis, ils sont plusieurs, ils progressent, ils rencontrent une montagne, les uns savent grimper, les autres non. Et finalement, Walter Bonatti, alors l'exemple m'a beaucoup plu, parce que j'ai une admiration sans borne pour Walter Bonatti, parce que c'était un grand alpiniste, mais en même temps un mystique, justement. Eh bien, seul Walter Bonatti arrive au bout. Et lorsqu'il arrive au bout, eh bien, il est face, dit Michel Serres, quasiment à la mort, c'est-à-dire à la réalité en tant que telle, donc la mort, puisqu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de progression à faire, il n'y a plus de procession, hein, de phénomène processionnel, et par conséquent, plus de pensée. Et je suis quand même très surpris, chez la plupart des philosophes aujourd'hui, même les plus aventuriers, vous avez été l'un des premiers à nous lancer sur la prise en compte de la réalité en tant que telle, cette difficulté, me semble-t-il, à aborder ce que moi j'appelle la métaroute. Je pense que lorsque vous définissez l'autoroute comme une métaroute, vous avez tort. C'est une route, je dirais, la puissance 2, hein, en ce sens qu'au contraire, elle renforce ce qui fait l'essence de la route, à savoir la différence entre le support, et là on peut référer au livre qui lui aussi est d'abord un support, et puis le message supporté par le support. L'autoroute est une espèce de super route, en aucun cas me semble-t-il une métaroute, dans la mesure où, pour moi, la métaroute, je dirais... la différence de la route ou de l'autoroute, qui certes comporte des poteaux indicateurs, mais qui est tout de même sont relativement détachés du message et du contenu, la métaroute telle qu'on la semble voir émerger aujourd'hui à travers les réseaux de type Internet, emporte avec elle son message. Il ne faut pas confondre, et ça n'apparaît peut-être pas suffisamment bien dans les quais de médiologie, route et trajet. Pendant longtemps, pendant peut-être d'ailleurs une période qui correspond grosso modo à la période de l'écriture au sens classique et du livre, trajet et route se sont en quelque sorte superposés. Tout trajet s'inscrivait, se concrétisait dans une route ou une autoroute, peu importe. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la notion de trajet, hein, c'est-à-dire le résultat d'une optimisation d'un parcours dans l'espace en fonction de la connaissance qu'on a de cet espace et de l'environnement et de la complexité de l'environnement, ce qui devient le plus prégnant aujourd'hui, le plus important et que l'on essaie enfin de maîtriser, c'est non plus la route mais le trajet. Car il semblerait qu'on commence à avoir les outils, en tout cas la volonté philosophique, c'est peut-être un problème philosophique beaucoup plus que de moyens. On est prêt, on est mûr à ce fait qui serait de maîtriser directement le trajet et à déboucher sur une espèce de trajectologie et non plus sur une matériologie de la route. Et j'ai le sentiment que les cahiers de médiologie, tout en posant tout à fait clairement la question, ne va pas suffisamment loin dans cette direction. Sauf peut-être quelques textes comme celui de Parocchia. Je crois que vous appréciez beaucoup les travaux de Parocchia. Alors Parocchia va peut-être un petit peu loin, dans la mesure où il évoque l'hypothèse un petit peu de science-fiction qui consisterait à ce que la totalité des informations de l'univers, par une hyper-trajectologie, la totalité de l'univers et des éléments de l'univers se transformerait en informations, se transporterait, mais y aurait-il encore transport quelque part, on ne sait pas très bien où, se bouclerait sur eux-mêmes d'ailleurs, de manière à se faire écho à eux-mêmes, et de telle manière que la métaroute ou l'hyperroute virtuelle permettrait à l'univers d'exister totalement, sans réduction, sans simplification pour lui-même. Alors, il est évident qu'on a affaire là à une utopie quasi religieuse, qui est, semble-t-il, un peu l'arrière-pensée, la toile de fond mentale de quantité de gourous de la métaroute, des réseaux Internet ou d'une revue comme Wired, que vous recevez, je pense, à l'ENSIB. Quel que soit le côté un peu délirant de ce genre de propos, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser la question de la médiation et du transfert d'informations et de l'appropriation des informations uniquement en termes de route, c'est-à-dire d'une information qui circule sur un support différent d'elle. Et de ce point de vue-là, la réflexion sur la route, au sens classique du terme, recoupe effectivement la réflexion sur, sur le livre. Moi, j'ai souvent... je conçois le livre avant, non pas tellement comme un texte, puisque le texte préexiste largement au livre et sort largement du corset du livre, mais avant tout comme un objet, un peu comme la route, comme un objet relativement neutre par rapport au texte qu'il supporte, mais qui, par le fait même de sa neutralité, de sa rigidité, de sa matériologie qui lui donne cette rigidité, cette fiabilité, permet à un texte qui au départ existe dans la subjectivité de celui qui l'écrit, qui est extrêmement fluctuant, qui est la vie même, permet à cette pensée, par l'intermédiaire du texte, de s'inscrire et ensuite de rejoindre une autre pensée, une autre singularité, qui va lire le texte, qui va l'interpréter, qui éventuellement va rebondir sur l'écriture d'un autre texte et d'un autre livre, mais qui finalement revient toujours en boucle à la matérialité de l'objet livre. Bon, la route est un petit peu comme ça. Elle est d'un côté permanente, elle survit aux différents passages, elle survit à l'actualisation des singularités, hein, des personnages qui circulent le long de la route, qui, en cheminant le long de la route, puisent ça et là autour de la route quantité d'informations dont ils font leur miel. Elle survit, et c'est ce qui fait à la fois sa force, son côté universel, bien évidemment, puisqu'elle échappe aux déterminations de chaque singularité, et en même temps ses limites. Alors, effectivement, aujourd'hui, et c'est une question que tout bibliothécaire se pose, ou toute personne confrontée à la question de la transmission du savoir et de l'information, c'est est-ce que ce modèle, lié à une médiation, je dirais, rigide, hein, jusqu'à présent, toute médiation était par définition rigide, différente de ce qu'elle médiait. Est-ce que ce modèle d'une médiation qui, par définition, est rigide et crée une différence au sens de Derrida, est-ce que ce modèle-là est toujours prégnant aujourd'hui ? Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est un modèle insuffisant. Non pas que le livre disparaisse ou que les routes disparaissent, bien évidemment, mais j'ai le sentiment qu'un modèle émerge qui aurait tendance à englober le premier et à aborder de front la communication directe, sans passer par un médium rigide, en quelque sorte, entre des contenus de pensée, entre des informations qui, en entrant en contact directement les unes avec les autres, s'en trouveraient modifiées. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la médiation disparaîtrait, mais elle serait d'une autre nature.
Est-ce que vous souhaitez répondre là-dessus ?
J'ai été extrêmement sibyllin, veuillez m'excuser, mais après les propos... lumineux de François Dagonier, il fallait bien un petit peu d'obscurité pseudo-philosophique.
Écoutez-moi, je remercie beaucoup Patrick de son intervention, parce que je trouve qu'il a surtout apporté de l'eau à mon moulin. Alors, évidemment, quand il dit qu'on met de la subjectivité, du mystique, du religieux, il est évident que devant les changements profonds de la communication, plutôt de la transmission, on ne peut pas ne pas avoir un petit côté un peu crépusculaire. On peut s'interroger. Effectivement, on ne défend pas la subjectivité. On dit que la subjectivité, elle connaît un moment d'angoisse devant la perte de ce à quoi elle était si familière. Je ne pense pas que les cahiers soient tombés, encore une fois, uniquement dans la nostalgie, dans la lamentation, mais effectivement, l'ancienne route avait sa poétique et sa symbolicité que souvent les routes nouvelles ne lui ont pas encore permise. C'est une question d'accoutumance. Il reconnaît lui-même que, il a reconnu lui-même que la médiation, enfin la matérialité est toujours indispensable. Par conséquent, il évite l'erreur maximale que le médiologue pourrait commettre, celle de croire que il pourrait y avoir un transfert d'informations. Et finalement, il va plus loin que moi parce que, si j'ai bien compris son intervention, il symbiose plus fortement que moi le matériel et le communicant. Alors que moi, j'étais encore dans un petit dualisme, j'étais encore un petit peu un médiologue insuffisant. Ici, on a un métamédialogue, puisque, encore une fois, il réussit. Alors, quand il me dit que l'autoroute n'est pas une métaroute, là, alors on joue sur les mots. Elle est la puissance 2, c'est ce que veut dire le mot métaroute. Pourquoi avoir dit métaroute ? Parce qu'on était tellement amené à penser qu'elle n'était plus une route qu'on a voulu corriger le tir et dire « Ah non, elle est vraiment une route ». Le mot méta n'a pas d'autre sens que de revenir sur ce qui avait été un doute. ne pas confondre route et trajet. Fonder une trajectologie plus qu'une matériologie, c'est sur ce point que je suis un peu moins informé. Où est la différence entre la trajectologie et la matériologie?
Peut-être demander à Jean-François Tétu comment il emprunte cette route.
Je l'emprunte d'abord métaphoriquement, c'est-à-dire que je rejoindrai le propos initial de Régis Debray. Dans cette perspective, la première chose qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'étais très sensible à ton propos initial, c'est un énoncé qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». On pourrait dire aussi, comme on le voit à tel endroit ici, que le routier est un raideur. Et cet usage métaphorique de la voie et de la route m'intéresse. Ça, c'est ma première question. Ce serait pourquoi aller chercher dans la route cette métaphore, pourquoi chercher cette métaphore-là? Ça m'intéresse évidemment parce que la perspective médiologique me semble centrale. J'aurais envie de citer ce propos d'un de nos prédécesseurs pour qui les poissons sont les seuls à ne pas savoir qu'ils vivent dans l'eau. Notre rôle est de chercher à comprendre dans quel milieu nous nourrit. Donc ma première question qui porte sur la relation entre cette infrastructure matérielle de l'univers symbolique qui est susceptible de servir de métaphore la plus puissante à quelque chose comme vérité ou vie. Et que je relirais assez volontiers à cette autre image, disons Wim Wenders, Paris, Texas, etc., qui est l'ouverture sur des mondes possibles. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que pour penser la route médiologiquement, ces cahiers de médiologie comportent trois parties, mais qui ne correspondent pas à la division que je vais introduire. Pour moi, il y a trois éléments. Il y a un, l'infrastructure. Deux, il y a le tracé. Trois, il y a le trafic. Et que si on arrive à penser médiologiquement ces trois-là, on arrive à comprendre à peu près de quoi il s'agit. Alors, une des choses que je trouve, que je ne m'attendais pas du tout à trouver dans les cahiers de médiologie et que je vous laisse découvrir, c'est l'entretien entre François Dagonier et le président directeur général de l'entreprise Scola, qui fait des autoroutes où on découvre, vous y avez fait allusion tout à l'heure, que pour rendre une route silencieuse et souple, c'est pas compliqué, on met des pneus dans la route. Et alors, ce genre de choses que j'adore, je trouve ça très très intéressant d'apprendre comment on met le caoutchouc, non pas sur la route, mais dedans, à quelque chose de tout à fait intéressant par rapport au milieu. Et je signale simplement que sur l'infrastructure, ce qui est très troublant, c'est que cette infrastructure, en somme, est récente. C'est que notre âge classique s'est fait avec une infrastructure quasiment nulle, et ça, c'est quelque chose qui me questionne un peu. Je vais développer un petit peu ça, il y a quelque chose qui me... une question que j'avais sur, je dirais, ce que je n'ai pas trouvé dans les cahiers, et comme je m'en suis déjà ouvert auprès des auteurs, je reprends ma question. Ce que je ne trouve pas, c'est que s'il est assez clair là-dedans que la route comme premier médiateur relie les hommes, pendant 23 des 25 siècles qui nous précèdent, ce qui unit les hommes, c'est pas la terre, c'est la mer. Si on veut voyager, c'est par eau. Et on le voit encore au XVIIIe siècle, et ça c'est peut-être des auteurs que il y a beaucoup d'auteurs qu'on retrouve là-dedans, il y en a que je trouve un peu moins que je ne m'attendais à trouver. Je pense en particulier à tous ces gens qui, au XVIIIe siècle, et Dieu sait si ce siècle est fasciné par la communication, pensent qu'il faut faire des canaux partout. Des routes, mais aussi des canaux. Autrement dit que le progrès de l'humanité, qui consiste par exemple à ce qu'on ait à chaque endroit ce dont on a besoin, passe d'abord par les voies de communication. Et là, ça met en jeu la question des tracés, parce que le tracé définit une ère politique. Et ça, c'est la deuxième dimension. C'est comment la route, dans son tracé, manifeste l'ère d'extension du pouvoir de qui la trace, de qui l'a construit. En ce qui concerne le trafic, la première chose que j'observe, c'est qu'il y a une lutte entre les usagers. À qui elle va servir, cette route ? Alors, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle la route est une route collective, alors que l'autoroute est un espace privatif. Que la route appartient à tout le monde. Elle appartient à tout le monde, oui, mais au lieu d'être une expansion de l'espace domestique, c'est à qui la prendra pour soi. Alors, il y a dans les cahiers quelques pages assez intéressantes, que je trouve, pour ma part, tout à fait intéressantes, sur les conflits d'usage. Par exemple, quand apparaissent les premiers vélocipèdes ou les premières automobiles, quel revêtement, à qui faut-il interdire la route, quoi ? Actuellement, l'autoroute est interdite au gibier. C'est quelque chose qu'on voit sur les panneaux. Mais elle est interdite aux piétons, on est bien d'accord, et un certain nombre d'autres choses dangereuses pour l'automobiliste. Ce qui m'intéresse dans le trafic, c'est d'abord le conflit d'usage. Ensuite, ce qui m'intéresse dans le trafic, c'est que, comme le disait François Dagonier tout à l'heure, c'est un trafic qui se soutient de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, la route ne va plus quelque part, elle est d'une fin. Moi, j'avoue que je suis cette sorte de vision postmoderniste m'inquiète un peu. Un univers où on ne sait pas très bien où on va, pourvu qu'on roule. Des références qui jalonnent la route, mais qui sont données, mais qui nous désignent l'endroit où on ne peut pas aller, puisque l'autoroute est fermée, sont des choses qui me rendent plus que perplexe. Donc ça c'est la dimension, la route comme fin du voyage, je dis que ça me laisse extrêmement perplexe parce que d'une certaine façon, je vois pas comment ce voyage à lui seul peut faire sens. Dans la mesure où ce serait un sens sans référence, je vois pas très bien, ça m'inquiète un peu. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'expression, puisque la troisième partie porte sur les autoroutes, l'expression autoroute de l'information peut servir un vice-président américain dans son discours électoral, ça c'est indiscutable, mais je vois pas du tout ce qu'elle nous apporte. Et je vois en revanche énormément ce qu'on y perd. Ce qu'on y perd, c'est que ça a tout simplement rien à voir avec une route. Alors, ce qui est très troublant, c'est que les géographes parlent à propos des réseaux de télécommunications, de réseaux immatériels. Ça, c'est très frappant, parce que pour moi, un réseau de télécommunications, il est matériel, il existe matériellement, comme les canaux aériens, mais beaucoup plus que ça. Et dans les cahiers, là... j'ai trouvé un article tout à fait suscitant qui dit qu'il y a beaucoup plus à attendre. Enfin, il faut rapprocher les autoroutes de l'information de la poste beaucoup plus que de la route. Et il me semble que dans cette idée que reprenait Patrick Bazin tout à l'heure du support qui est son message, etc., c'est indiscutablement du côté vers la poste qu'on va et pas du tout vers la route. Bon, voilà les quelques, pour l'instant, les... quelques directions que je souhaitais vous livrer.
Oui, il y a beaucoup de directions possibles sur la route, si ça se cadre bien. On appelle route toute ligne d'itinéraire répétable et réversible. Donc on peut aller, on peut retourner. Alors effectivement, je crois que c'est au fond, ce numéro est un peu un carrefour étoilé. Et on peut en fait emprunter plusieurs routes. Alors la route métaphorique... c'est celle qu'on n'a pas tout à fait voulu emprunter, parce que nous étions sous la tutelle de François Dagonier, qui n'aime pas trop les métaphores et qui aime bien la physique des supports. Et donc, nous, tout de suite, nous sommes plantés dans la route comme, je dirais, matérialité, comme tracé, comme opération, comme rapport avec un milieu physique, etc. Ce qui ne nous a pas empêché d'ailleurs de demander à Nanine Charbonnel quelque chose de très bien sur les 10 métaphores de la route. On a tout de même, effectivement, pour répondre à ta question, Jean-François, effectivement, la métaphore de l'homo viator est structurelle dans le christianisme. L'homme est en voyage, il est en voyage du bas vers le haut, et c'est une épreuve. Et qu'est-ce que c'est que cette épreuve? C'est une itinérance. C'est donc à la fois dans l'idée de route, il y a l'idée de sacrifice et de transcendance. On endure quelque chose
qui débouche sur un ailleurs. On n'est jamais tout à fait dans l'ici, on est déjà à côté et le chrétien est l'homme qui passe. C'est l'homme qui passe et donc c'est toutes les métaphores de la route, non seulement du calvaire, mais du pèlerin. La chrétienté s'est faite à pied. Parce que s'il est vrai que le christianisme s'est beaucoup diffusé par les voies d'eau, la chrétienté s'est faite par des pèlerins à pied, Compostelle, etc. En tout cas, tu as tout à fait raison, la route est une métaphore structurante dans toute religion, et en particulier dans la religion chrétienne. Pour le reste, oui, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, je suis un peu inquiet de ce que tu as dit, Patrick. Car il est vrai que plus les médiations se multiplient, plus la sensation d'immédiateté s'impose. Mais tu sais bien que c'est une immédiateté qui est fabriquée, produite, et que, disons que, toujours, enfin bon, la plus belle sensation d'immédiateté, c'est celle d'un plan de cinéma dans lequel on se trouve dans l'écran. Il a fallu un travail de production considérable, d'élaboration et d'usinage pour en accumulant les supports, les traitements, les métiers, bref, les médiations pour produire cette sensation d'immédiateté. Alors, il est vrai que Internet supprime les distances. En ce sens, on est passé avec Internet d'un espace euclidien, un espace topologique. Là, il y a un article qui l'explique
excellent.
Très bien de Karine Dupitsky.
Remarquable. Je le recommande.
Elle exprime bien qu'il n'y a pas de carte d'Internet, comme tu dis. C'est pas un ensemble, parce qu'il y a une carte des autoroutes, mais il n'y a pas une carte
d'Internet. C'est pas possible.
Et sur la notion de distance, distance dans Internet, et disons dans la complexité, je ne vais pas évoquer le thème de la complexité,
il n'y a pas de distance, il y a des débits, et les débits sont ceux qui génèrent les temps d'accès. Qui modulent les temps d'accès à l'information. Mais moi, je pense comme toi, il n'y a pas de réseau sans matérialité. Alors, et c'est vrai, alors tu as aussi raison de pointer ça. Il nous a peut-être manqué dans ce numéro un article sur le saint-simonisme. Ça, c'est effectivement le grand manque qui tenait au fait, d'ailleurs, que celui qu'on avait sollicité devait passer une thèse avec François Dagonier, Pierre Musso, et il a préféré la passer avec...
Justement, je pensais à Musso, parce que quand tu dis qu'à la carte dans son le communiqué de main, quand il met l'accent sur le fait que la seule carte qui est susceptible, la seule géographie possible des réseaux, c'est pas une carte géographique, c'est une carte des flux. Qu'il faut qu'on invente une nouvelle forme de représentation de l'espace qui repose sur la circulation des flux et non pas sur le rapport au sol.
Non, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la route, c'est précisément ce qui intéresse un médiologue, c'est la conjonction politique-technique.
Absolument.
Il n'y a pas de tracé sans traceur. La route est un acte de violence, étymologiquement, n'est-ce pas, via rupta, c'est une effraction. La route est une opération de force. La route est creusée, la route est percée. Elle est donc projection d'une volonté de puissance. Ce sont les empires qui font les routes. Là où on sait qu'il y a route, là où on détecte la route, on détecte l'État derrière, c'est-à-dire un collectif politique qui a besoin de la route et pour expédier ses légionnaires, et pour expédier des nouvelles et en recevoir. C'est donc un instrument de contrôle politique, un instrument de territorialisation. La route est donc un instrument de domination qui peut parfois, puisque nous avons pris le texte de Julien Gracq sur la route, à travers une route, on voit la trace d'un empire qui n'existe plus. Enfin, une route se défait et c'est peut-être sans doute l'empire romain qui n'est plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de route innocente, disons. Il n'y a pas de médium innocent. Toute route porte un projet de conquête, de domestication, de domination. Domestication de l'espace et du temps, c'est toute la technique, mais c'est aussi une opération politique. Et il y a sans doute, d'ailleurs, dans l'idée de réseau, c'est-à-dire de la connexion généralisée, une intention politique qui peut devenir totalitaire, puisque le réseau, par définition, c'est à la fois
la mise en relation de chacun avec tout, c'est un acte de volonté, c'est une totalité organisée. Il y a dans l'idée de réseau une idée certainement de maîtrise du monde qui peut devenir un peu folle. Se rappeler tout de même que les autoroutes ont été la production fasciste italienne et que là, au fond, ce qu'a fait de mieux le Tercer Reich, c'est les autoroutes. C'est tout de même le réseau viaire, le réseau autoroutier, évidemment lié avec l'armée, le déplacement de force, le déplacement de puissance, la mobilisation, etc.
Oui, mais personnellement, moi, je suis absolument persuadé que les problèmes sont un petit peu toujours les mêmes. Je veux dire, la face noire, la face pessimiste, la face optimiste. La route, c'est aussi l'article de Bougnou, et de ce point de vue-là, et de tous les points de vue d'ailleurs, tout à fait excellent. Il montre bien le rapport entre la route, justement comme surface, comme matière, comme surface homogène, neutre par rapport à l'environnement, qui vient se poser, et Gracq utilise le terme de règle, ce bout de route posé comme une règle de la nature. Donc la route, cette espèce de, c'est un artefact qui, de ce fait même, nie tout en la révélant, hein, la diversité de la nature, de la vie, mais en même temps permet d'en parler de façon universelle. C'est-à-dire le fait d'avoir à transporter un message d'un point à un autre, d'un point vers un autre point extrêmement éloigné, et Lévy également reprend ce thème d'une façon très intéressante dans l'interview, nécessite que le message soit compréhensible au-delà du village, au-delà de la région, et soit quasi universel. Bon, c'est le même phénomène pour le livre. Le livre est lié de façon intrinsèque à l'universalité. Ce dont je parlais tout à l'heure, le livre en tant qu'objet, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui me paraît le plus fascinant, beaucoup plus que le texte, encore une fois, qui lui survit au livre, était antérieur au livre. Le livre, par le fait même qu'il est livre, objet homogène, fixe, etc., nécessite et permet une multitude d'interprétations d'un même texte. Il y a la lettre d'un côté, l'esprit de l'autre. La lettre est unique, l'esprit, les esprits liés à une multitude de lectures des textes de par le monde sont possibles. Donc, il y a une machine, je dirais, à produire de l'universel et de la singularité, qui est le fait du livre, mais qui est aussi le fait de la route, ou de la route à la puissance 2, qui est l'autoroute. Bon, ce modèle-là, il débouche bien évidemment sur la démocratie, sur l'universel, ou plus précisément, je dirais, sur une certaine forme d'universel et une certaine forme de démocratie. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et si je dis qu'on le veuille ou non, c'est que moi, personnellement, ça me gêne beaucoup. Moi, je suis un universaliste tout à fait classique, et l'espèce de questionnement qui entoure aujourd'hui la démocratie universaliste me pose problème, alors sur le plan politique et sur le plan personnel. Néanmoins, et là, je vais prendre un thème cher à John Rawls, le grand théoricien politique américain, qui tourne beaucoup autour de cette question aujourd'hui. Après avoir, dans Théorie de la justice, en 72-73, bâti une théorie de la justice finalement classique, il a renouvelé, mais tout en la conservant, la théorie kantienne de l'universalité et finalement de la démocratie. Il a buté sur un problème que ses confrères américains, dans les années 80, à la grande époque du politically correct, du multiculturalisme, lui ont objecté, c'est quid de cette diversité irréductible. Qu'on le veuille ou non, il y a de la différence. Moi, en tant que bibliothécaire, m'occupant de bibliothèque de quartier à Lyon, j'ai beau dire qu'il faut amener les populations qui viennent à la bibliothèque de la Duchère ou d'ailleurs vers un modèle commun, j'échoue. Donc il y a un fait, et John Rawls utilise maintenant dans son dernier bouquin le thème, l'expression « la diversité irréductible, incontournable », et il essaie de développer une théorie de la démocratie qu'il appelle « consensus par recoupement ». C'est-à-dire, il part du principe que la diversité est irréductible et qu'il faut arriver à créer l'universel avec des jeux de langage qui sont spécifiques, mais qui néanmoins, par leur dialogue, produisent de l'universel, à la différence du livre qui est condition de possibilité de l'universel. Et c'est ça que je voulais dire dans mon propos de départ. Ce qui me paraît intéressant dans l'émergence, non pas d'Internet en tant que tel, ça a peu d'intérêt Internet en tant que tel, mais du paradigme qui émerge avec Internet et qui émerge dans les discours sur le multiculturalisme. Et tout ça forme un tout, à mon avis. C'est un questionnement sur quid des médiations du futur. Et quid des médiations pour une démocratie et pour un universalisme qui ne serait plus l'universalisme limité matériologique, non pas que je pense qu'il ne soit pas matériel, tout est matériel, hein, mais au sens d'une matière rigide, quid d'un universalisme à l'époque des fluctuations, à l'époque des flux, et à l'époque où ce à quoi tout le monde aspire, c'est à l'interactivité, c'est rencontrer l'autre. Alors, bien évidemment, on connaît le procès que je fais moi-même d'ailleurs à Internet. C'est que la globalisation, la mondialisation que permet Internet, c'est en même temps la tribalisation. Parce que les regroupements sur Internet, ils se font par affinité, affinité élective. Hein. Donc on a effectivement, Internet est un terreau d'émergence, de communauté. Bon. Alors ça c'est le côté, je dirais, à la fois intéressant, parce qu'on retrouve la vie et la singularité, qui est chère à tout le monde, y compris à celui qui se promène, et surtout à celui qui, comme Rousseau, se promène le long de la route, qui pérégrine, qui randonne, hein, il y a un très très beau texte sur la randonnée, parce qu'il rencontre la singularité. On rencontre la singularité dans Internet. On la rencontre pour le meilleur et pour le pire quand c'est du tribalisme. Mais ce qui est intéressant, et Lévy le montre bien dans son texte, c'est que ces tribalismes sont eux-mêmes mouvants. Car par le jeu des interactions, il y a, par le simple jeu des échanges, alors c'est peut-être l'échange pour l'échange, mais après tout, est-ce qu'il y a autre chose que des échanges de la vie ? Se constitue quelque chose sans doute de nouveau, qui est à la fois global et qui est en même temps diversifié de l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a là une réflexion qui, moi, me paraît tout à fait importante. Parce qu'on ne peut pas, et là je m'adresse à Régis Debray, avec avec lequel, moi, je dirais, je suis d'accord sur le... C'est aussi un problème de génération, sans doute. J'adhère à la démocratie, au républicanisme, pas psychologiquement, mais en même temps... Non, c'est pas la même chose. C'est une forme... Bon, en même temps, j'y vois de plus en plus des limites. Je veux dire par là qu'il faut, non pas la démocratie, mais une certaine forme d'inscription de l'universalisme dans le politique aujourd'hui. Il faut arriver à penser... Une évolution de la démocratie vers quelque chose d'un peu différent, intégrant la diversité. Et la pensée autour d'Internet va dans ce sens-là. Alors il y a un côté tout à fait négatif dans cette affaire, mais on ne peut pas nier qu'il y a un effort pour penser un problème nouveau.